Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'ancien boxeur gilet jaune face à la justice, Christophe Détinger, comparaît aujourd'hui à Paris pour avoir violemment frappé deux gendarmes, c'était début janvier. Un procès ce mercredi quand dans le même temps les représentants de commerçants seront reçus à Bercy pour évoquer les conséquences économiques des manifestations gilets jaunes. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Dans ce journal, nous irons aussi à New York où le célèbre narcotrafiquant mexicain El Chapo a été déclaré coupable par un jury. Il encourt la perpétuité. Et puis nous irons au Maroc où trois Français ont été arrêtés soupçonnés de terrorisme. L'enquête, vous le comprendrez, est assez vaste. Près de 1800 condamnations de gilets jaunes depuis le début du mouvement. Le chiffre a été donné hier par le Premier ministre Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale. 1796 condamnations très exactement et, précise-t-il, 1422 personnes qui sont encore en attente de jugement. Tout cela alors que sera aujourd'hui très médiatisé le procès de Christophe Détinger, ancien champion de France de boxe. Il s'en était pris à des gendarmes le 5 janvier à Paris sur une passerelle près des Tuileries. Deux gendarmes avaient eu 2 et 15 jours d'ITT. L'agresseur s'était rendu deux jours plus tard et il a dit regretter son geste, Sarah Guibaudot.
Avant de se rendre, Christophe Détinger s'était justifié dans une vidéo mise en ligne.
Je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas d'extrême droite, je suis un Français. Je me suis fait gazer et à un moment la colère est montée en moi et oui, j'ai mal réagi.
Le tribunal va surtout revoir les vidéos de la passerelle et les interprétations diffèrent. Thibaut de Montbrial, avocat des deux gendarmes blessés, y voit un agresseur déterminé.
Ce qu'a fait M. Détinger avec une violence déterminée, une véritable montée à l'assaut, puis en donnant des coups de pied dans la tête au sol à un gendarme, en plus en l'assumant, certes en présentant des formes d'excuses, mais au nom du mouvement social, c'est une véritable incitation à augmenter encore la violence.
Pour sa défense, il faut comprendre comment se fonctionne municipal apprécié, père de trois enfants sans casier, s'est retrouvé à porter ses coups sans penser à l'impact des images, maître Hugues Vigier.
Ça aboutit à ce qu'il devienne, mais à son corps défendant, l'emblème des gilets jaunes peut-être, et puis d'une forme de résistance à ce que certains vivent comme une utilisation de la violence déplacée, excessive, tout en reconnaissant, il le dit et il le dira encore, que ce qu'il a fait pour une grande partie n'est pas acceptable.
Le contexte est moins tendu qu'en janvier, mais Christophe Détinger risque en théorie jusqu'à 7 ans de prison.
Christophe Détinger qui a donc participé aux violences lors de mobilisations de gilets jaunes. Ces manifestations depuis la mi-novembre ont causé de nombreuses dégradations et un manque d'activité pour les commerçants. Hier, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, évoquait une catastrophe et le chiffre de 70 000 personnes en activité partielle. Ce mercredi, élus et professionnels seront donc reçus par le gouvernement. L'idée, Catherine Pétillon, est de rassurer les commerçants.
Cet après-midi, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher recevra les associations et fédérations nationales de commerçants et d'artisans. Une rencontre destinée à évaluer l'impact économique du mouvement des Gilets jaunes et l'effet des mesures en réponse déjà proposées par le gouvernement. Des élus de collectivités seront, eux, reçus plus tôt dans la matinée par le ministre Bruno Le Maire. L'association France Urbaine, qui réunit métropoles et grandes villes, avait demandé ce week-end une réunion d'urgence avec l'exécutif. Elle estime que c'est en millions d'euros que se chiffre l'impact du mouvement sur les contribuables, en raison de la dégradation de biens publics et de la mobilisation des services de la ville, ainsi que sur les commerces, via des pertes de recettes et d'emplois. L'association cite comme particulièrement touchées les villes de Rouen, Rennes, Bordeaux ou encore Dijon. Les commerçants de plusieurs grandes villes avaient envoyé le même type de courrier à Bruno Le Maire. Ce dernier a annoncé dès novembre des mesures à destination des entreprises affectées par le mouvement des Gilets jaunes, comme l'étalement d'échéances sociales, des remboursements accélérés des crédits d'impôt ou encore la possibilité de demander le chômage partiel. Fin janvier, plus de 4500 entreprises avaient demandé à bénéficier de ce dispositif. Cela représente 66 000 salariés pour 36 millions d'euros de soutien. Toutes ces aides restent insuffisamment demandées, estime Bercy. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a promis il y a quelques jours une enveloppe d'environ 3 millions d'euros pour soutenir des actions collectives ou des animations commerciales dans les villes les plus touchées.
Le gouvernement qui avait promis aussi de suspendre la taxe carbone cette année, c'est chose faite. Mais qu'en sera-t-il l'année prochaine? L'idée est de retour par le biais d'une tribune signée par 86 députés de divers bords, principalement de la majorité. Dans les colonnes du Figaro, il plaide pour une fiscalité carbone à la fois lisible et juste socialement. Et puis en bref encore, notons cet amendement adopté hier à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance. Le texte consacre l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Ils devront porter les mentions parent 1 et parent 2 et non plus père et mère. Joaquin Guzman, appelé El Chapo, a été jugé coupable hier. Coupable d'avoir co-dirigé un puissant cartel de drogue, d'avoir exporté des centaines de tonnes de cocaïne aux États-Unis et ce pendant 25 ans. Il y a au total 10 chefs d'accusation. Le célèbre narcotrafiquant mexicain est jugé à New York. Un permis, Loïc Loury, qui a permis comme jamais de lever le rideau sur le trafic international de drogue.
Des cascades de pots de vin et des assassinats en série. Voilà les deux piliers du cartel de Sinaloa, le prix à payer pour faire passer en 25 ans 150 tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Au cours du procès, une soixantaine de témoins ont raconté les coulisses de ce trafic et notamment la corruption. 300 000 dollars distribués chaque mois pour la seule ville de Mexico. L'argent arrosait le ministère de la Justice, la police des transports, jusqu'à l'organisation Interpol. L'ex-président Enrique Peña Nieto lui a toujours nié avoir reçu la moindre enveloppe. Derrière les magouilles, il y avait aussi la guerre fratricide entre cartels, les règlements de compte, comme en 93, 6 morts dans une discothèque de Puerto Vallarta. El Chapo lui n'hésite pas à torturer, à assassiner lui-même ses rivaux, raconte l'un des témoins, et mène grand train au sommet de la pyramide. Avec la chute de Guzman, l'édifice ne s'écroule pas pour autant. Le co-dirigeant du cartel, Ismael Mayo Zambada, est toujours en fuite. La guerre de la drogue au Mexique, elle continue de faire chaque année des milliers de victimes.
El Chapo pourrait écoper d'une peine de prison à perpétuité. 12 dirigeants indépendantistes catalans sont sur le banc des accusés depuis hier. Leur procès s'est ouvert à Madrid, un an et demi après l'organisation d'un référendum d'autodétermination jugé illégal par le pouvoir espagnol. Les indépendantistes qui, au niveau de la politique intérieure, empêchent actuellement le gouvernement d'avoir un budget. Le socialiste Pedro Sanchez pourrait être contraint aujourd'hui d'annoncer des élections anticipées. Aucun vol ne sera autorisé au départ ou à l'arrivée de la Belgique aujourd'hui, conséquence d'un appel à la grève générale dans le pays, appel suivi par au moins les aiguilleurs du ciel. Les trois grands syndicats du pays réclament une hausse des salaires, des allocations et des pensions, entre autres. Trois Français ont été arrêtés au Maroc pour leur implication présumée dans le financement du terrorisme. Nous l'avons appris hier, ils sont toujours en garde à vue. Et actuellement, la police recherche encore d'éventuels complices, Sarah Doublier.
Comme à leur habitude, les services de police n'ont pas donné beaucoup de détails quant à la localisation et aux circonstances de l'arrestation. Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale marocaine, les enquêtes menées ont révélé que les suspects avaient tissé, je cite, « des liens étroits avec des combattants de Daesh en Irak et en Syrie ». Les investigations en cours doivent également déterminer d'éventuelles ramifications des suspects du Maroc vers l'étranger. Cette annonce intervient moins de deux mois après l'assassinat de deux touristes scandinaves dans la région montagneuse d'Imlil en décembre dernier, assassinat revendiqué par Daesh qui avait abouti à l'arrestation d'une vingtaine de personnes. Le royaume chérifien, soucieux de ne pas susciter la panique après une saison touristique ternie par ce drame, redouble d'efforts dans sa lutte déjà active en matière antiterroriste. Épaulé par un arsenal juridique particulièrement ferme, ses activités de renseignement ont démantelé depuis 4 ans la création du BCIJ, également surnommé le FBI marocain, pas moins de 57 réseaux terroristes sur son sol.
Sarah Doublier, correspondante de RFI à Casablanca pour France Culture. Revenons à présent sur la liste de mise à pied de journalistes. Elle s'allonge après les révélations de cyberharcèlement. Au moins 5 membres d'un groupe Facebook, la Ligue du LOL, 5 membres de ce groupe ont été écartés par leur rédaction ces derniers jours. Le groupe, constitué en grande partie d'hommes, est l'illustration d'une stratégie de conservation du pouvoir et de domination. Voilà ce qu'estime la chercheuse à l'Université de Genève, Isabelle Collet.
Je pense que ce qui est propre à cette profession, c'est d'une part le fonctionnement très fort par cooptation et la précarité d'un certain nombre d'emplois qui, d'un côté, empêche une certaine protection par le droit du travail et, d'autre part, oblige à faire partie des bons cercles, des bons endroits pour pouvoir avoir une place. Ce qui explique aussi l'attraction qu'a créé ce groupe de personnes et qui ont attiré autant de suivants. Parce qu'il y a une bonne façon de penser que l'on est du côté des dominants, c'est d'avoir désigné des dominés en commun. D'une part, ça nous protège et d'autre part, ça donne le sentiment qu'on est du bon côté.
Vous parlez des dominants et pourtant vous dites qu'ils se sentent menacés. C'est presque paradoxal.
C'est presque paradoxal, mais pour autant, quand on voit par exemple les progrès que font les droits des femmes. Les hommes ont toujours perçu cela comme une menace parce qu'en fait, ce que les dominants perçoivent comme des privilèges, les personnes qui les détiennent pensent que c'est juste normal.
La chercheuse Isabelle Collet qui répondait à Maxime Fayolle, invité du journal de 22h hier sur France Culture. La météo en France métropolitaine, elle est assez simple. Ce mercredi, du soleil pour tout le monde. Comptez ce matin 2 degrés à Strasbourg, Lille et Lyon, 3 degrés à Paris, 11 à Marseille.